Bonsoir à tous.
Oh bah bienvenue
dans ce hall, effectivement. Ça nous change un petit peu de lieu. Et on a l'honneur d'accueillir. Non, mais il faut rester assis. Hein. Donc Sophie Allais et Madame Vézillier, médiatrice familiale donc à l'UDAF, pour les écouter sur notre soirée débat sur le couple, l'enfant et la séparation. La famille recomposée. Une période peut-être d'ancrage pour finir sur une...
Oui, on va parler de ça et je suis partie de ce que je rencontre dans ma pratique. De voir un peu ce que je vois dans ma pratique. Donc je suis installée à Château-Gontier. Et donc c'est un motif de consultation quand même qui reste assez fréquent. Donc j'ai trois types de patients à ce moment-là. Il y a un des membres du couple qui envisage éventuellement de se séparer mais qui ne sait pas trop et qui est en réflexion. Il y a les couples qui viennent soit pour se séparer, en tout cas arriver à se séparer à peu près correctement. Et puis ceux qui veulent faire tout un travail pour tenter de rester ensemble, enfin traverser l'épreuve. Et autrement, c'est là où c'est un peu rigolo, c'est que les parents sont séparés et l'enfant il manifeste tellement de symptômes, quels qu'ils soient, qu'il réunit. Ça, c'est son sport favori, hein, de tenter de réunir les parents qui sont séparés. Il réunit les parents chez le psy. Donc il est au milieu des deux, sur le canapé, là ils sont tous les trois, et ils sont enfin réunis. Ça peut être une stratégie qu'on observe chez les petits. Jusque 12, à peu près. Les tout petits, c'est pas mal, 5-12 à l'école primaire. Bon, j'ai pris des notes, donc je vais peut-être regarder mes notes. Le titre c'est appréhender les changements et ne pas perdre l'équilibre. Bien évidemment, on est d'accord, hein, il y a changement et il y a perte d'équilibre, forcément. C'est un événement de la vie, donc forcément il y a un impact sur l'équilibre. Vous avez remarqué que c'est quasi épidémique quand même, cette affaire de séparation. J'ai regardé un peu les chiffres, alors je ne sais pas Nathalie si t'es pareil. Il y a eu une grosse étude en 2016, et cette étude de 2016 dit qu'en 15 ans, il y a eu plus 63%, ce qui est énorme. C'est un couple sur deux, à peu près. Alors, ils ont fait l'étude sur les divorces, hein, donc ils ont fait une projection par rapport aux couples qui ne sont pas mariés. La durée de vie moyenne d'un premier couple, c'est 15 ans, là, dans la moyenne. Et puis après, si on fait un deuxième ou un troisième, c'est plus court. C'est plus on en fait, plus c'est court. Enfin, plus la séparation est facile. On a déjà fait une. Hop, c'est plus simple. Et puis généralement, il y a peut-être un enfant ou pas d'enfant. Le facteur de risque, c'est la jeunesse. C'est-à-dire que plus les membres du couple sont jeunes, plus c'est risqué. Ça, le risque est augmenté. Et puis, il est beaucoup plus fréquent dans les couples où la femme est autonome financièrement, parce qu'on sait que la séparation appauvrit. Et c'est souvent, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est souvent sur la demande de madame. Voilà, et le risque est moins élevé aussi quand il y a un enfant de moins de 5 ans. Passer 5 ans, c'est plus simple. Enfin, ça arrive plus facilement. Et quand les enfants sont grands, c'est d'autant plus facile aussi. Donc, on sait que forcément, cette séparation, elle va affecter les enfants, mais pas que. Elle va aussi affecter les adultes. Et il y a des conséquences pour tout le monde, adultes et enfants. L'enfant, il n'est pas, du tout protégé de ça, même si a priori ça se passe bien. Okay ? Bien évidemment, les conséquences, elles vont être différentes suivant l'âge des enfants. 2-3 ans, la question de la séparation, c'est un concept, hein, qui n'est pas acquis. ça veut rien dire, la question de la séparation. Il faut attendre un peu plus par rapport à ça. C'est une notion qui est abstraite. En revanche, en dessous de 3 ans, l'enfant, il va surtout être sensible à l'ambiance, à ce qui se passe au niveau de la famille. Et ça va l'impacter s'il y a des disputes, s'il sent des tensions. Vous avez remarqué, déjà ils ont des antennes, mais alors dans ces cas-là, ils ont des très très grandes antennes. Parfois, ils perçoivent ou ils peuvent l'exprimer d'une manière un peu détournée, mais ils perçoivent quand même qu'il y a quelque chose qui n'est plus pareil. Et donc ça l'impacte, le tout petit, ça va l'impacter au niveau de son sentiment de sécurité. J'y reviendrai tout à l'heure. Après 4 ans, on peut expliquer à un petit. Alors, plus ils sont grands, plus les explications vont peut-être être plus subtiles. Mais en tout cas, lui expliquer avec ses mots, à lui, ce qui se passe. Pas le pourquoi, hein. On s'en fiche. Les enfants, ils s'en fichent pas mal du pourquoi. L'important, c'est de dire qu'est-ce qui va se passer, là, maintenant. Et lui expliquer aussi, mais ça j'y reviendrai tout à la fin, les changements liés à la séparation. Parce que ce qui va être important pour lui, c'est qu'est-ce qui va se passer concrètement, matériellement, où est-ce qu'il va habiter et tout et tout. C'est le concret, c'est toujours le sentiment de sécurité. Et puis plus grand, quand on a des plus de 10, ouais, enfin ils sont ouais, 8, 9, 10 là, et après, on peut leur forcément toujours leur expliquer qu'il y a de l'eau dans le gaz, que ça se passe pas très bien, qu'on n'a plus les mêmes valeurs, que etc. etc. Et aussi pour eux, écouter ce qu'ils disent. L'exemple que j'ai en tête, c'est vous avez un. Donc le couple est en train de se séparer, c'est plus ou moins conflictuel, surtout plus que moins. Et il y a un des deux membres du couple qui garde la maison, par exemple. C'est-à-dire que le lieu où l'enfant a grandi. Forcément, l'enfant, spontanément, par rapport au sentiment de sécurité, il va se sentir mieux dans sa maison d'enfance. Et forcément, quand il va chez l'autre parent qui a un nouvel appartement où il n'a pas ses repères, là, c'est différent. Et. Il faut rester vigilant par rapport à ces signaux-là, ces signaux de bien-être et de confort quand ils sont dans la maison de l'enfance, parce que, enfin, en tant que parent, il faut rester vigilant parce qu'il n'est pas en train de dire qu'il préfère le parent qui habite dans la maison. Il est juste en train de dire qu'il est confortable dans cette maison, quel que soit le parent. Enfin, sauf s'il y a un gros, gros problème relationnel, mais là, je parle dans les situations un peu normales. Vous voyez, et là il faut rester vigilant pour pas être recruté par une espèce de jalousie ou je sais pas quoi qui va venir titiller et puis mettre de l'huile sur le feu. Donc oui, bien penser à privilégier le bien-être de l'enfant, le mettre dans la zone de confort la plus importante, sans vous sacrifier, on est d'accord, hein. C'est pas une question de sacrifice. Et aussi pas de question frontale. C'est papa ou maman que tu préfères ? Non, ça, non. Hein, c'est pas de choses comme ça. Ça se voit. Hein. Enfin,
Excusez-moi. Je ne sais pas si on peut poser des questions en même temps, si vous voulez m'interrompre, mais.
Oui.
Vous parliez là, quand un des deux garde la maison et l'autre part en appartement, ou ailleurs.
Ou ailleurs.
Celui qui part et qui emmène quelques meubles ou des choses comme ça, comment réagir quand les enfants lui reprochent ?
Oups.
De prendre des meubles dans la maison.
Réexpliquer ce que c'est que la séparation. Et que la séparation, c'est une séparation, c'est une séparation de la relation, mais c'est aussi une séparation matérielle. On partage, peut-être. Enfin, c'est tout simplement expliquer ça, ouais. Et voir ce que ça fait. Peut-être que ça suffira. Hein. Faut voir. C'est bon ? Donc, ce que j'ai mis avec attention, donc dans ces histoires d'enfants plus grands, c'est penser en tant qu'adulte à bien dépasser la situation de compétition. Hein, l'enfant, c'est pas un trophée qu'on doit remporter, c'est une personne à respecter. Je le dis, ça paraît évident, mais c'est pas si évident que ça quand il y a des situations de déséquilibre relationnel comme ça. On peut partir d'une très bonne intention et dire quelque chose d'une manière bien intentionnée, mais qui peut être terriblement maladroite. Voilà. Donc, que les adultes dépassent leurs problématiques perso. parce qu'ils doivent impérativement garder leur rôle de parents. Ce n'est pas parce qu'on est séparés qu'on n'est plus parents. Et le dire aux enfants, ça, c'est important. C'est-à-dire que le rôle de parent, enfin, je vous fais un petit brief hein, quand même, des petits rappels. Le rôle du parent dès la naissance du petit, c'est de développer chez l'enfant le sentiment de sécurité dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que suivant votre comportement, plus il est juste, plus vous êtes adapté à sa demande, plus vous êtes fiable, plus vous répondez dans des temps à peu près acceptables, plus l'enfant va avoir confiance en vous. Donc s'il a confiance en vous, il a confiance en lui. Et il va construire comme des fondations. Des fondations, plus ces fondations sont solides, plus il va construire sa vie dessus. Alors effectivement, c'est un peu comme les constructions antisismiques. Hein. Les fondations sont bonnes. Le système, il peut bouger un petit peu s'il y a des tempêtes, mais ça ne va pas s'écrouler. Et ça, c'est à vous de le construire, je mets la pression, c'est à vous de le construire tout petit, dès le début. Et de continuer. Ça veut dire que l'enfant, dans toutes les expériences de vie qu'il va faire, les agréables et les désagréables, ou les douloureuses, s'il a une bonne base de sécurité, il va avoir une sécurité émotionnelle et il va avoir un sentiment de confiance en lui. C'est-à-dire qu'il va aborder les choses plutôt en confiance. Donc ce que je vous disais, hein, il faut que les parents soient fiables, disponibles, adaptés. Ça, c'est très très important entre 0 et 15 mois. Ensuite, entre 15 mois, 3 ans, là, il commence à explorer le monde, que ce soit par l'acquisition de la marche, par le langage, ils vont rentrer à l'école. Et là aussi, c'est important de les accompagner dans l'exploration. Plus vous les accompagnerez, plus ils seront en sécurité avec ces fondations-là, plus ils iront explorer calmement et sereinement. Ils n'auront pas peur. Et c'est d'autant plus important quand il y a encore des événements difficiles dans la vie. Et puis, au-delà de 3 ans, 3-4 ans, il va y avoir la question de l'identité. C'est de l'accompagner aussi dans sa recherche d'identité. Et 3-4 ans, vous savez, c'est quand il commence à être un dinosaure violet, et puis deux minutes après, ils sont un chevalier. Tout ça, ils sont en train de construire des personnalités. Ils sont en train d'expérimenter des émotions. Et s'ils expérimentent la peur, s'ils expérimentent la colère, et si vous les accompagnez là-dedans, quand il y a vraiment des situations de colère dans la vie, là, il saura ce que c'est, et vous l'aurez peut-être nommé aussi, cette émotion-là. Ça va ? C'est bon ? Vous n'êtes pas endormi ? Et puis, l'étape d'après, quand ça y est, ils sont à l'école, le rôle de parent, c'est de l'accompagner dans le développement de ses compétences. Alors forcément, ça commence tout petit, mais les compétences dans le sens apprentissage. C'est-à-dire que l'accompagner quand il apprend à faire du vélo ou du roller, et l'accompagner aussi dans la lecture. Tous les adultes sont des référents pour ce type d'acquisition des compétences. Donc ce que je vous disais, c'est à partir du moment où il y a cet accompagnement-là, que vous soyez séparés ou ensemble, de toute façon, ça, il faut que ça reste. Et ça, l'enfant, il doit le savoir, l'expérimenter, l'éprouver. Et cet accompagnement-là, ça lui permet donc de s'estimer, d'avoir assez d'estime de lui, avoir assez de confiance en lui, et aussi de faire confiance aux autres. Ça, c'est important, parce que s'il fait l'expérience de parent fiable, forcément, spontanément, il va plutôt faire confiance. Il va plutôt être OK sur tous les projets qu'il va avoir, et il va penser que ses projets vont normalement réussir, parce qu'il aura assez de confiance. Et puis, au pire, s'il ne réussit pas, c'est pas un problème. C'est tout ça, le rôle de parent, ensemble ou pas. La chose aussi qui est extrêmement importante, c'est d'apprendre au fur et à mesure qu'on est autonome, tout en étant dans la relation. Être autonome, l'autonomie relationnelle, c'est même si je ne suis pas d'accord avec celui avec qui je suis en face de moi, même si je ne suis pas d'accord avec lui, ça ne change rien sur qui je suis. Voilà, c'est je peux dire, et l'autre en face peut ne pas être d'accord, peut ne pas comprendre, ça c'est pas un problème. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans le désir de l'autre et on ne fait pas ce que l'autre attend de nous ou ce qu'on pense que l'autre attend de nous. Et ça, c'est la construction de parents, c'est ça. La séparation, donc c'est un deuil pour tout le monde. Pour les parents, évidemment, puisque les parents renoncent à l'idée de famille. L'idée de famille est très puissante hein, quand même dans cette société-là. Elle est très importante, elle est très idéalisée. C'est un renoncement aussi à l'idée du couple, qui est aussi très, très, très investi. Et là, on se retrouve avec une confrontation avec la réalité, c'est-à-dire que le couple s'est terminé, chacun des adultes est obligé de devenir autonome, ce qui n'est pas une mince affaire. Il y a des adultes dans leur histoire de vie, ils ont quitté les parents et se sont mis en couple. C'est-à-dire que la question de l'autonomie, je suis tout seul, c'est pas si évident que ça. Il y a pas mal de consultations pour ça. J'y arrive pas, ou je m'en vais chez mes parents, ou... Enfin, ça arrive. Les adultes, ils sont aussi confrontés à la dépendance affective, à l'indépendance matérielle, et aussi, tout seul, aux responsabilités éducatives, matérielles aussi, et affectives vis-à-vis de leurs enfants. Et ça, tout seul, c'est pas si évident que ça à affronter. Parce que comme le couple... lui-même est déséquilibré, on peut penser que l'adulte tout seul qui se retrouve avec ses enfants, il peut se sentir déséquilibré aussi et pas assez armé. Je ne sais pas si vous avez entendu, ça date, je crois que c'est un psy qui a sorti un livre il y a un an. Non, moins d'un an. Et il explique, alors je ne sais plus si c'est un psy ou un sociologue, il explique que les plus 63% de séparation aujourd'hui, c'est peut-être dû tout simplement son hypothèse, c'est que c'est dû au mode de fonctionnement, enfin la manière dont les couples vivent en société. C'est-à-dire que comme c'est surinvesti, ils font tout ensemble. Les courses, ils s'occupent de l'enfant ensemble, ils s'occupent de la maison ensemble, et ils n'ont pas d'espace à eux. C'est très fusionnel. Et la fusion, à un moment donné, ça agit un peu négativement sur nous. Et il disait qu'au siècle passé, les hommes étaient ensemble, en train de vaquer à leurs occupations, et les femmes aussi. Et ça permettait des respirations. Ce qui faisait que les gens n'étaient pas ensemble et allaient beaucoup mieux. C'est son hypothèse, pas mal. Pourquoi pas. Donc pour les parents, la question du deuil, pour tout le monde, ce que je disais, pour les parents, c'est aussi la nécessité, hein, ce que je disais tout à l'heure, la nécessité de conserver l'étayage parental. Vous n'avez pas d'autre choix que de conserver cet étayage parental. Vous ne pouvez pas faillir. Vous avez le droit de ne pas aller bien tout seul. Vous avez le droit de vous faire aider, vous avez le droit de vous faire étayer par plein de gens. Ça, c'est important. En revanche, quand les enfants sont là, il faut être au maximum stable. Au maximum. Pour les enfants, le deuil pour tout le monde, ce que je disais, donc pour les parents et pour les enfants. Alors c'est différent évidemment suivant les âges, mais les plus grands, eux, ça je le vois très nettement en consultation, les plus grands, ils doivent renoncer à l'idée de la famille, un petit peu comme les adultes. C'est-à-dire cette famille, là aussi, elle est idéalisée. On est ensemble, on est dans une maison, on est une famille, on part en vacances. Et ça, ils doivent renoncer à ça. C'est très compliqué. Et il y a aussi un renoncement capital, c'est le renoncement à la première relation qu'ils ont connue dans leur vie. Celle qui était à la base des fondations. Et ça, ils doivent renoncer. Donc forcément, ça bouge. Et ça peut être très très inconfortable pour eux. Les enfants souffrent de la séparation, évidemment, mais ils souffrent surtout des malentendus, des disputes, du mépris et de tout ce qu'ils peuvent entendre, alors de la bouche du parent, d'un de leurs parents ou de l'entourage. C'est-à-dire, vous pouvez ne pas du tout être d'accord avec ce que dit votre conjoint, ce que fait votre conjoint. En revanche, on ne peut pas mépriser qui il est. C'est toute la différence entre faire, dire et être. Parce que n'oubliez jamais que les enfants sont issus des deux. Et que si vous critiquez le conjoint, vous critiquez la moitié de votre enfant. Ça, ils le perçoivent très très nettement. Et si, je ne sais pas, moi j'avais un petit un jour qui me dit, mais ma mère a même pas parce que je suis comme mon père. Voilà, il en était rendu à avoir ces croyances-là. C'est dommage parce que le problème n'est pas du tout là, ça ne se situe pas du tout ici. Donc, renoncer, enfin, les enfants aussi doivent renoncer à l'idée que définitivement les deux parents sont séparés, les deux parents ne seront plus ensemble. Attention au double langage et au langage paradoxal. Si vous êtes sûr, vous êtes sûr. C'est bon, on s'arrête. C'est-à-dire ne pas faire le yo-yo avec l'enfant. Ouais, peut-être on va se remettre ensemble ou non. Non, c'est oui ou non. Quand vous l'annoncez, c'est OK. Quand vous l'annoncez, c'est OK. Et vous avez déjà décidé de ce qui allait se passer. C'est-à-dire que le discours de l'un et le discours de l'autre soient cohérents. Ça maintient la base, les fondations, la base de sécurité. Sur un plan pratico-pratique de ce qui regarde les enfants, hein, sur ce qu'ils vont vivre. Comme toutes les épreuves de la vie, il va falloir. C'est le processus de deuil, hein, donc on passe par toutes les phases, le déni, la colère, la culpabilité, le chagrin, et enfin l'acceptation, de manière schématique. Et l'enfant, lui, et les adultes a fortiori, va apprendre à vivre dans ce nouvel équilibre. C'est-à-dire qu'il y a des équilibres, mais il y aura forcément un nouvel équilibre. Mais c'est tout le processus de deuil. Un processus de deuil classique, ce qu'on dit, nous, en règle générale, c'est que ça dure un an sur le deuil d'une personne. On peut imaginer que ça peut durer un an ou plus. Il doit renoncer à des choses très, très, très archaïques de quand il était tout petit. Oui, que les parents mesurent les conséquences de leurs actes et de leurs paroles. Aussi que les parents pensent que... je pense que les parents vont plus vite que les enfants. Les enfants doivent suivre et ils ne comprennent pas tout. Et il faut qu'ils s'habituent à ce nouveau système qui vient me chercher et tout et tout. Et les parents doivent absolument... comment dire ? Déconfusionner leur rôle de parent avec leur vie d'adulte. Okay ? C'est-à-dire que tout de suite, nouer une nouvelle relation et présenter à l'enfant, si l'enfant n'a pas fini de faire le deuil, ça va te déséquilibrer, forcément. Ok ? Il faut lui laisser le temps. Il faut qu'il apprenne à vivre autrement pour continuer, pour se remettre à l'équilibre et ensuite démarrer éventuellement autre chose avec des nouvelles configurations. Oui, ne pas oublier que le parent est complètement responsable de la vie de son enfant. Oui, c'est important. Qu'il est responsable de sa sécurité matérielle, affective, qu'il est responsable aussi légalement. C'est-à-dire, il y a un cadre par rapport à la loi. Et ça, on peut expliquer ça aux enfants aussi. En disant, il y a une séparation, il y a un divorce, et dans le cas du divorce, on sépare les choses. C'est la loi, c'est comme ça. Remettre la question de la loi. Le but, en tout cas, du parent, c'est que l'enfant il soit pas envahi ou recruté par la nouvelle vie aussi du parent. Et qu'il ne se retrouve pas, parce que ça, on le voit très très souvent, dans des conflits de loyauté. Il ne sait pas trop. Conflit de loyauté, et puis éventuellement un sentiment d'abandon. Parce que lui aussi, il peut se sentir abandonné, parce que, je sais pas, il y a un autre couple qui se reforme, et maman, là, elle aime quelqu'un d'autre, et moi, les enfants se trouvent très désemparés parfois par rapport à ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Qu'on ne critique pas l'autre devant... Ok, respect mutuel. Je vais revenir juste sur la recomposition familiale. Mettez-vous juste à la place d'un enfant qui voit ses parents se séparer. Donc, ses figures d'attachement ne sont plus ensemble. Il peut perdre son sentiment de sécurité. Donc là, il y a quelque chose qui se sépare aussi à l'intérieur. Et à un moment donné, s'il y a un ou les deux parents qui ramènent un autre conjoint plus une tribu derrière, et qu'on imagine, on est dans la maison familiale et qu'il y a un envahissement de territoire par toute la tribu, l'enfant, il le vit très très mal. J'utilise ces mots-là parce que c'est comme ça qu'il le dit. Ils sont envahis. S'il faut partager la chambre, ils n'ont pas envie. Enfin, c'était pas du tout prévu au programme. C'est pas comme ça qu'ils le sentaient. Et ils ne comprennent rien. Donc là, tranquille. Tranquille, tranquille. Enfin, du mieux que vous pouvez. En tout cas, sachez que là, ils sont sensibles à ce genre de choses. Donc par rapport à la recomposition familiale, soyez toujours cohérent aussi dans ce que vous dites et ce que vous faites. Bon, ça c'est dans la vie en règle générale, parce que là, généralement, ils pointent. Oui, ne pas maintenir l'enfant dans l'illusion que le couple va se reformer, c'est-à-dire que ça c'est une situation qu'on voit aussi assez souvent. Il y a un des membres du couple qui décide que stop, c'est fini, et celui qui est quitté est toujours très attaché, voire très amoureux. Et il peut aussi raconter à l'enfant qu'il est toujours très très amoureux et qu'il ne sait pas comment faire. Et l'enfant, lui, peut être bercé dans l'illusion que si papa ou maman est encore amoureux de l'autre, peut-être que ça va se réparer à un moment donné. Lui, il peut tout faire pour essayer de faire le ciment ou la colle. C'est pour ça qu'il amène ses parents séparés à la consultation. Une chose aussi capitale, c'est de ne pas... l'enfant n'est pas le confident. C'est pas à l'enfant qu'on raconte toutes les misères de ce que fait l'autre, dans quelle situation l'autre nous a mis, etc., etc. Ou si je déprime, c'est à cause de... Non. Il faut... Soyez vigilants pour que les rôles ne s'inversent pas, que l'enfant ne prenne pas soin du parent. Ça, c'est ce qu'on voit. Il y a un méchant, et puis les enfants restent avec le gentil, et le gentil est chouchouté par l'enfant, ou les enfants. Oui, rester parents, quoi. On ne peut pas être les parents de ses enfants. Ce qui est important, très concrètement, pour les petits, je vais plutôt m'axer sur les petits, c'est donc les préparer en disant qu'il y a de l'eau dans le gaz, tout ça, machin. Hop. Et puis à un moment donné, à partir du moment où vous vous êtes mis d'accord avec l'autre parent, de comment tout allait s'organiser, notamment matériellement, tout simplement prévenir l'enfant, l'en informer, et tout de suite enchaîner sur une feuille, hop, deux colonnes, ce qui change. On fait la liste, mais de manière très pragmatique, faire la liste de ce qui change. Donc les deux personnes, mais ça c'est important aussi, c'est pas les parents, c'est à vie. En revanche, les deux membres du couple d'avant les enfants, c'est eux qui se séparent. Et ça aussi, ça peut être très réconfortant pour l'enfant. C'est-à-dire que les parents, c'est pour toujours. Il y a des enfants, suivant les âges, il y a des fois, ils captent pas vraiment. Moi, j'en ai un jour qui est arrivé en disant... parce qu'il avait dans sa classe quelqu'un qui s'était séparé. Et donc, sa copine allait avoir un nouveau papa. Et non, donc fallait recadrer parce que c'était pas si évident que ça. Donc c'est le couple conjugal qui sépare, les parents sont là pour toujours. Donc cette séparation, bien la situer là. Et dire tout ce qui change, c'est-à-dire comment ça va s'organiser. À l'école, c'est comment, qui fait quoi, qui vient chercher, comment ça s'organise. De manière mais très très claire, pour que l'enfant il soit pas en insécurité. Parce que s'il va à l'école et se dit, mais qui est-ce qui vient me chercher, je ne sais pas. Non, il faut le dire. Ça va se passer de telle et telle manière. Très didactique. On liste. La nécessité forcément de s'être mis d'accord avant, les deux parents. Et que ce soit cohérent dans le discours. C'est que les deux donnent le même discours quand ils ne sont pas ensemble. Et puis, dans l'autre colonne, tout ce qui ne change pas, parce qu'il y a plein de choses qui ne changent pas. Ils ne changent pas de parents, ils ne changent pas de grands-parents, ils ne changent pas de frères et sœurs. Parfois, ils ne changent pas de maison. Parfois, ils ne changent pas d'école, ils ne changent pas de sport, ils ne changent pas de copains. Et on fait une longue liste comme ça. Pas l'animal domestique, ils ne changent pas d'animal domestique. Et faire cette liste de tout ce qui change et tout ce qui ne change pas. Et souvent, la liste de ce qui ne change pas est plus longue. Ça rassure aussi, visuellement. Hein. C'est juste comme ça. Et Bon, ça c'est pour tout pareil. Un enfant qui est complètement déséquilibré, hein, il y a trois pistes, le sommeil, l'alimentation et l'école. C'est-à-dire, soit le comportement à l'école, soit il décroche un peu, les notes baissent. Donc l'importance de prévenir aussi les enseignants. Et puis si au milieu de tout ça, vous avez le sentiment que vous n'y arrivez pas, ou ça se passe pas, enfin, vous n'étayez pas de la manière dont vous aimeriez, comme dans le deuil, n'oubliez pas qu'il y a des personnes qui sont des personnes ressources. Et peut-être que l'enfant, il y a une personne qu'il aime bien, qui est stable, en qui il a confiance, qui peut être compréhensive, qui ne va pas juger. Et elle peut être une personne ressource et étayante à ce moment-là pour l'enfant. Et qui va peut-être lui redire avec d'autres mots ce qui se passe, et qui va le rassurer en attendant que ça se passe mieux. C'est-à-dire que cette personne, elle peut le maintenir et ou le remettre en sécurité. J'ai bientôt fini. Hein.
Je m'inquiète pas.
Il y a aussi une chose. Les couples qui se séparent, normalement, c'est pour que ça aille mieux. Relationnellement, c'est pour que ce soit plus calme. Et parfois, souvent, on voit que les couples séparés sont dans des conflits qui sont beaucoup plus importants quand ils sont séparés que quand ils étaient ensemble. Donc là, souvent, moi je leur propose de se remettre ensemble parce que c'était plus confortable, sous forme de boutade. Mais en tout cas, ça aussi, ça se questionne. Et déjà, les enfants pouvaient être malmenés quand le couple était ensemble et se disputait. Mais si ça se déchire derrière, là, ça peut maintenir le déséquilibre chez l'enfant. Oui, c'est-à-dire que toutes les relations qui ne sont pas... la relation conjugale, tant qu'elle n'a pas été, tant que le deuil n'est pas fait, il peut y avoir conflit. À un moment donné, ça devient paisible. C'est parce que le deuil de la relation a été fait. C'est du temps. Hein. Le facteur temps est important. Pensez bien que l'enfant et les adultes ne sont pas dans la même temporalité. Le temps ne passe pas de la même manière. Bon, voilà. Et puis ensuite interviennent des gens formidables qui peuvent arriver à ajuster tout ça.
Je te laisse la parole. Merci, Sophie. Merci pour ton intervention et cet éclairage sur la séparation et ce que ça peut produire chez les enfants et chez les parents. Je vais prendre un peu le relais. Donc, je vous rappelle, je m'appelle Nathalie Vézillier, je travaille au service de médiation familiale de l'UDAF de la Mayenne. Voilà, nous sommes trois médiatrices familiales à travailler dans ce service avec une assistante administrative. C'est important de vous dire un peu le contexte, parce que quand vous appelez le service, vous tombez sur l'assistante administrative, un peu de direction aussi. Vous n'avez pas directement une médiatrice familiale. Donc voilà, je trouvais que c'était important de pouvoir présenter au moins le service à ce niveau-là. Voilà. Et d'excuser mes collègues, parce qu'il était indiqué sur la fiche les médiatrices familiales, mais je me trouve toute seule à parler ce soir. Voilà. Par rapport à la séparation, au déséquilibre, ou comment trouver l'équilibre, une possibilité est la médiation familiale. Aujourd'hui, la société, le gouvernement pousse les personnes à être autonomes, à être responsables, à trouver des solutions par elles-mêmes. Et l'écho se fait dans la médiation familiale au niveau civil, si vous voulez, au niveau des relations intrafamiliales. Nous, on reçoit beaucoup de personnes qui nous contactent directement suite à une séparation, où ils vont se dire voilà, c'est difficile pour moi de vivre ce moment, j'arrive plus à communiquer avec l'autre, avec l'autre parent, on n'arrive pas à trouver un accord sur le partage de la maison, des biens. Donc ils peuvent faire appel à nous. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est la médiation familiale. Je teste un peu là dans l'assistance. Non, pas du tout. Donc c'est un espace, c'est une rencontre, la médiation familiale, avec un tiers. C'est-à-dire, on est quand, dans les situations de séparation, il y a les deux parents et un professionnel qui intervient, qui fait l'intermédiaire entre les deux personnes dans un même espace, un espace physique qui est neutre. Et aussi, c'est un espace-temps. Et vous allez pouvoir vous parler de ce qui fait conflit entre vous. Alors, il y a des conflits qui sont très enquistés, très forts, et des conflits un peu moins forts, mais et puis qui sont larvés. Toutes ces questions peuvent venir être discutées en médiation familiale. J'écoutais attentivement Sophie et là où elle donnait des indications sur vos possibles actions en tant que parent et que vous ne vous sentez pas entendu, que vous n'arrivez pas à exprimer des choses face à l'autre parent, la médiation familiale est un lieu pour pouvoir se parler de ces choses-là, pour trouver une sécurité. J'ai entendu ce mot sécurité. De sécurité, de parler de ces choses-là de manière confortable entre vous. Donc là, c'est vraiment important parce que ces changements vont redéfinir le lien en fait que vous avez en tant que parent. Et vous n'êtes plus couple conjugal, vous restez toujours un couple de parents. Alors je dis vous, vous n'êtes pas dans cette situation-là, mais c'est un peu ce que je peux dire en tout cas en entretien d'information. Voilà. Donc, la médiation familiale, il y a une super définition. Alors, je l'avais à un moment donné apprise par cœur. Donc, si j'ai un trou, j'irai vite voir je vous dirai les grandes lignes. Donc, la médiation familiale, c'est un processus de reconstruction du lien familial axé sur l'autonomie et la responsabilité des personnes et concernées par des situations de séparation ou de rupture, et ces situations, elles vont être accompagnées par un tiers qui est indépendant, qui est neutre, qui est impartial et qui est le médiateur familial qui va organiser, c'est la définition, hein. elle est très longue, parce que elle va comprendre toutes les familles de France, comme l'article de loi sur l'autorité parentale, en fait. C'est un article qui est très large pour que tout le monde puisse s'inscrire, toutes les individualités, toutes les singularités des personnes. Vous, moi, on est issus d'une famille avec sa propre histoire et on va se mettre en couple avec quelqu'un qui a aussi une histoire très, très singulière. Et donc comment respecter toutes ces familles, eh bien, la médiation, elle va comprendre l'organisation de la famille d'une manière très large. Donc, on va parler de la famille recomposée, de la famille d'origine, de la famille avec l'intergénérationnel, ou avec son jeune adulte quelquefois. Bon, là, il est question de séparation, mais c'est pour ça, ça peut être un couple homoparental. Donc, on peut aller poser ces questions-là qui vont venir interroger la place et le rôle qu'on occupe dans cette famille qui est très singulière. Donc, la médiation familiale, c'est du sur-mesure. Ça, c'est certain. Donc, c'est pour ça, quelquefois, c'est un peu difficile pour moi d'en parler, parce que je prends des précautions pour bien dire qu'il n'y a pas un modèle et que chacun va pouvoir trouver des solutions ou des accords à son propre rythme. Hein, voilà. Donc là, c'était un peu pour planter le décor de la médiation. Donc les sujets que vous pouvez parler en médiation familiale, c'est donc autour de l'autorité parentale, comment on fait pour prendre en charge la santé de nos enfants, voilà, qui va payer la mutuelle, qui le prend sous sa carte de sécurité sociale, c'est très pratique. Hein. Le plan d'accueil aussi, avec soit pour une résidence alternée, soit pour une résidence alternée élargie, voilà, parce que voilà, quelquefois, on a des idées reçues aussi sur ce que c'est la résidence alternée. Et la résidence alternée, c'est pas seulement une semaine. Il peut y avoir des accords entre les parents qui permettent à l'enfant de voir un peu plus souvent son enfant. Voilà, ça peut être une pause le mercredi. Voilà, c'est à géométrie variable, excusez-moi. Et donc voilà, sur ces questions-là, et puis sur, comme je vous ai dit tout à l'heure, le partage des biens dans la maison, voilà, qui va prendre la vaisselle, qui va prendre l'armoire normande, voilà, des choses comme ça. Et nous, on a des petits outils pour leur permettre, pour vous permettre d'être au travail dans ce processus de médiation. Et mais je suis peut-être allée un peu trop vite. Parce que pour donc le processus de médiation, j'aime pas trop utiliser ce terme-là, mais la médiation familiale, c'est d'abord un rendez-vous d'information. Parce que la médiation, elle a des valeurs. Et pour que vous puissiez vous engager, il est important pour moi, en tant que médiatrice familiale, de recueillir votre consentement. Parce que si un de vous deux n'est pas d'accord pour faire la médiation familiale, la médiation, elle ne se mettra pas en place. Ça, c'est important. Donc, et c'est pas parce que, voilà, moi je vais vérifier hein, qu'on ne fait pas plaisir à l'autre hein, en s'engageant dans la médiation familiale, mais que chacun des personnes va y trouver un intérêt pour vraiment être acteur de la médiation et être dans une participation. Parce que la médiation, voilà, c'est ça, c'est une sorte de démocratie participative, mais en petit comité, quoi, au niveau de la famille. Donc, c'est une des conditions pour rentrer en médiation familiale. Donc ça, c'est très important. Et quand vous rencontrez une médiatrice familiale, elle vous explique voilà, ce point, cet aspect qui est important. Et je reprends mon souffle. voilà, ça c'est important parce que c'est une démarche qui est personnelle et qui est donc volontaire, pour que vous puissiez exercer votre libre arbitre sur cette décision à prendre de rentrer en médiation familiale. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, hein, c'est un des lieux où on peut aller discuter de la séparation, des conséquences liées à la séparation, et comme je vous l'ai un peu présenté, c'est très pratique, et, voilà. On parle de choses très pratiques. Alors oui, on va pouvoir quelquefois revenir sur le processus, sur l'histoire de couple, mais pas comme en thérapie familiale. Voilà. S'il y a des questions personnelles, moi, je ne fais pas parler les personnes sur des choses qui peuvent les mettre en difficulté vis-à-vis de l'autre. Donc voilà, on réoriente à ce moment-là. Et voilà, le support, l'appui d'un autre professionnel est important. Donc c'est pour ça que l'entretien d'information, il est primordial pour pouvoir un peu distinguer les besoins des personnes et pour leur permettre de se réorienter. Parce que là aussi, c'est les personnes qui sont actrices et qui vont prendre une décision. Parce que nous, médiatrices, enfin, médiatrices familiales, ou je vais dire je prends pas la décision pour vous. C'est bien vous qui prenez les décisions en médiation familiale avec l'autre, en concert avec l'autre. S'il n'y a pas d'accord, ben, moi, je ne vais pas vous forcer à trouver un accord absolument. S'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Vous êtes d'accord pour qu'il n'y ait pas d'accord. Voilà, ça, c'est un fait. C'est que ben, c'est peut-être pas... Il y a besoin de mûrir, il y a besoin d'expérimenter encore certaines questions, d'aller se renseigner, voilà, auprès d'autres acteurs du droit, par exemple. Moi, je réoriente vers le CIDFS. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Centre d'information des droits des familles et des femmes. Donc, des femmes, c'est historique. Hein. C'était concernant la question de l'IVG. Aujourd'hui, bon, même les hommes peuvent y aller, hein, y a pas de souci. Hein. Et donc, ce sont des juristes qui vont vous renseigner sur des questions légales. Voilà. Et vous allez pouvoir connaître vos droits. Nous, moi, en médiation, je ne peux pas me substituer de toute manière aux juristes. Ce n'est pas ma formation. Et même si elle était ma formation de base, je ne peux pas. Je suis un principe des principes de déontologie et qui ne me permettent pas en fait de conseiller les personnes que je rencontre. Voilà. Donc je suis liée à la neutralité. Donc ça veut dire que je ne vais pas prendre position. Je ne vais pas conseiller plutôt les personnes vers quelque chose qui serait bon à mes yeux. Voilà. De l'idée que moi je pourrais me faire du bon parent, en fait je ne dois pas avoir d'a priori sur les personnes que je rencontre et ça c'est important. Voilà, on vous l'explique lors de l'entretien d'information parce que c'est une place vraiment on joue les équilibristes, les médiateurs familiales. Donc c'est vrai, j'aime bien l'intitulé de la soirée ce soir, comment trouver les équilibres. Nous, on est des funambules dans les rencontres que nous avons avec les personnes. Voilà, comment se vit notre posture. Quelquefois, on a besoin de le clarifier auprès des personnes. Voilà. Ça, c'est important parce qu'on est encore une profession méconnue. Donc, voilà. Et tout ça participe, cet entretien d'information, il participe à bien comprendre et à vous mettre au travail, à mettre les personnes au travail sur l'après. Donc, c'est-à-dire quand on va commencer les séances de médiation familiale. Voilà. Alors, je veux juste dire voilà, qu'on n'est pas on n'est pas un juge. Voilà. Le juge, il tranche. Le médiateur, il tranche pas. Il n'a pas de pouvoir. Il est à votre service, il est au service des personnes pour leur permettre d'exprimer, d'étayer ce qu'ils souhaitent dire, parce que quelquefois c'est pas facile de dire à l'autre ce qu'on ressent, ce qu'on vit, certaines difficultés, où il y a des filtres aussi, par exemple, sur le prix d'une maison. Un notaire, l'autre a pris un autre notaire, et il y a un chiffre qui est posé, à quoi correspond-il? Mais du fait de la dispute, il y a des filtres qui font qu'on n'entend plus ce que l'un et l'autre dit. Ça c'est important à dire également. Donc on n'est pas des avocats non plus. Voilà. Je terminerai par une note positive hein, quand même. Mais on va pas défendre les personnes. Même si parfois on peut sentir qu'on défend, mais on a des outils de reformulation qui fait qu'on peut avoir le sentiment qu'on prend parti, mais c'est pas ça. C'est des points de vue on retraduit les points de vue des uns et des autres. Donc dans ce cas-là, moi je dis, hein, n'hésitez pas à me dire si vous ressentez ça, je vous expliquerai ce que je suis en train de faire. Et ça, c'est important pour établir une sécurité intérieure, ce que tu as indiqué tout à l'heure qui était très important en tout cas. C'est important pour les personnes. En tout cas, je le remarque quand je les rencontre. Je remarque que c'est important pour elles d'être entendues, d'être comprises. Et donc, je peux discuter de la manière dont on va se parler. Il y a sur le fond, ce qu'on se dit, les thématiques pour lesquelles on vient en médiation, et sur le comment aussi. Ce qui ressort des fois, ben, j'arrive plus à lui parler parce qu'il me coupe tout le temps la parole. Voilà, donc effectivement, il y a des besoins qui sont ressortis, eh bien on les met en rendez-vous d'information au travail. Est-ce que vous êtes d'accord pour écouter madame, pour accepter qu'elle ait un point de vue différent du vôtre? Comment on fait? Est-ce que vous voulez qu'on se donne un tour de parole? Est-ce que vous souhaitez parler en même temps? Qu'est-ce que ça peut produire? Voilà, tout ça c'est travaillé dans le rendez-vous d'information. Et même quelquefois après, parce que voilà, c'est du sur-mesure, donc la situation elle évolue quelquefois dans le processus de médiation, voilà, il peut y avoir des retours. On n'est pas d'accord et on va parler en même temps, donc on oublie la règle qu'on s'était fixée. Donc voilà, moi je peux rappeler, je suis le garant de cette rencontre, donc je peux rappeler la règle qu'on s'était tous les trois mise en place. Voilà, donc ça c'est une chose. Donc à l'issue, ce que je peux dire en rendez-vous d'information aussi, c'est que lorsque les personnes vous trouvez des accords, même partiels, je peux vous aider à les rédiger. Je ne vais pas les rédiger sous forme comme un avocat pourrait le faire, hein, c'est pas mon travail, mais je vais reprendre les mots des personnes, voilà, de comment ils veulent formuler les choses, parce que quelquefois ça fait sens pour eux, et ça c'est ce qui est important, c'est qu'est-ce qui fait sens pour vous. Parce que voilà, un document de justice, quelquefois, c'est pas facile à relire des fois. Il faut que je mette le décodeur là. Il y a quelque chose que j'ai pas saisi, on n'ose pas, et ça peut créer encore des conflits derrière parce qu'on interprète d'une certaine manière. Là, en médiation familiale, ça, on peut rédiger. Et ensuite, vous pouvez faire homologuer votre accord auprès du juge. Voilà. C'est une démarche à faire tous les deux, puisque vous signez cet accord tous les deux, qu'il soit partiel ou complet. J'ai encore du temps, je regarde un petit peu. Donc, comme je vous ai dit, la médiation... peut-être que je vais laisser une partie, vous aurez sûrement des questions après. Par rapport aux familles recomposées, alors je peux rencontrer effectivement des familles. Alors moi je reçois les parents des enfants, les deux parents qui sont en conflit. Je ne reçois pas la belle-mère avec la mère. Moi, je pratique de cette manière-là. Après, je réfléchis parce que voilà, je suis en mouvement également. Donc, peut-être à l'avenir, si ça fait sens pour les personnes et que tout le monde est d'accord, ben, peut-être que c'est possible. Mais ce que j'observe aujourd'hui, c'est que souvent, par rapport aussi à la loi, l'autorité parentale désigne bien les parents. Bon, ben, j'accueille les deux parents quoi, en médiation familiale. Voilà, je voulais juste préciser ce point-là pour la famille recomposée. Donc après, Quand les deux personnes, si vous dites oui à la médiation familiale, si j'ai bien vu que vous étiez d'accord pour engager une médiation familiale, comment ça se déroule tout ça? Donc on fixe un rendez-vous et c'est en fonction voilà, de vos emplois du temps et du mien et des contraintes du service. Voilà. Donc nous, en Mayenne, on se déplace sur le territoire. Donc ça nous arrive de venir ici, à Château-Gontier. On ne va pas à votre domicile. On trouve une salle, on trouve une association pour nous accueillir. La mairie nous prête des salles. Donc voilà, on voit qu'il y a un tissage pour permettre aux personnes de se rencontrer. Et voilà, comme je vous dis, c'est du sur-mesure. Il y a beaucoup de personnes qui sont en 3-8, en horaire atypique. Donc voilà, on en tient compte aussi. Donc on essaye de jouer sur notre flexibilité. Donc voilà, on peut vous recevoir le soir de 18h jusqu'à 19h30, parce que c'est à peu près une heure et demie, hein, une séance de médiation. Donc il faut pouvoir se dégager ce temps-là. Donc vous voyez, toutes les informations mises bout à bout, ça vous donne des informations éclairées sur qu'est-ce que c'est la médiation, qu'est-ce que je peux y travailler, avec qui, quel est ce professionnel, et puis aussi comment ça va impacter ma vie pour un temps précis. Parce que voilà, médiation, c'est un temps, je vais dire bref, mais ça prend du temps quand même, voilà. Je veux dire bref, parce que ça ne va pas au-delà de un an. C'est très très rare quand ça va au-delà de un an. Je pourrais en reparler tout à l'heure. Voilà, c'est surtout, en moyenne, c'est 3-4 mois, une médiation, en moyenne. Mais bien sûr, c'est ajusté en fonction de ce que vous mettez comme question au travail. Donc si vous avez énormément de questions, on va suivre ce que vous souhaitez. Après, si vous souhaitez arrêter, de toute façon, à chaque fin d'entretien, moi je demande si vous souhaitez continuer. S'il y en a un des deux qui ne veut pas, on dit pourquoi et on clôt la médiation familiale. Il ne faut pas que vous soyez pris, il faut que vous vous sentiez libre de faire la médiation familiale. Parce que, comme la définition le rappelle, voilà, vous êtes des personnes responsables et autonomes. Donc, on suit votre rythme, en tout cas. Ça c'est important pour moi qui suis médiatrice, qui pratique la médiation familiale. Voilà. On va peut-être passer aux questions. J'ai fait un petit rappel là dans ma tête des différents points. Oui. Un point important, c'est que... Non, je vais en parler après si vous posez la question. Non, ça, c'est pas si important que ça, mais bon, voilà. En tout cas, voilà, c'est vraiment une démarche. Il faut retenir que la médiation, c'est une démarche qui est volontaire, mais qui se fait à deux, en même temps, avec un professionnel. Voilà. Et peut-être que j'ai oublié des aspects, mais je vais m'appuyer sur vos questions pour pouvoir y répondre.
Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre attention.
Merci pour votre attention. Merci à Sophie. Merci. Merci.